Chapitre 77. Le vent s'engouffre dans la maison, gronde dans le conduit de cheminée et fait gémir le toit. Des rafales de neige s'écrasent contre les vitres. Agnetta est assise devant l'ordinateur dans le bureau de Bernard. Elle synthétise ses notes sur la dernière séance d'hypnose, ajoutant des détails qu'elle a gardés en mémoire, affinant les nuances. Puis elle commence à comparer avec les deux séances précédentes, observant comment Eric Maria Barque fait ressurgir les souvenirs de Hugo, détail après détail. La lumière vacille un instant, puis se stabilise. Bernard est dans la bibliothèque. Il parcourt les livres qu'il vient de recevoir, des ouvrages spécialisés sur les tueurs en série, le travail policier et le profilage. Plus tôt dans la journée, ils ont nettoyé le bureau, remis les meubles en place, balayé les débris et aspiré les éclats de verre. Les papiers arrachés ont été rassemblés dans un carton, en attendant d'être triés. Bernard a décroché la porte endommagée du buffet de Hervé et l'a descendue dans l'entrée pour la faire réparer. Agnetta tourne une page de son carnet, parcourt ses notes sur les informations que lui a transmises Yona à propos du mode opératoire, les flèches gravées sur les corps, les mutilations chaotiques. Elle commence à taper ses propres réflexions quand soudain, les lumières s'éteignent et l'écran de l'ordinateur devient noir. Le ventilateur s'arrête. Elle se lève et regarde par la fenêtre. Toute la zone est plongée dans l'obscurité. Il n'y a aucun point lumineux de l'autre côté de la baie. Elle se rassied, soupire et fixe l'écran éteint. Des pas résonnent dans l'escalier, suivis d'une faible lueur. Bernard monte avec un vieux chandelier en fonte, en fredonnant une chanson de Noël. La lumière tremblotante inonde la pièce lorsqu'il pose la bougie sur le bureau. « Malgré les bulletins d'alerte, on est toujours surpris, » sourit-il. « J'étais en train d'écrire, » répond-elle en passant un doigt sur le clavier. « Pourvu qu'on ne perde pas trop de données. Je vais prendre quelques notes à la main avant de descendre, » dit-elle en cherchant une page blanche dans son carnet. Une rafale fait de nouveau craquer la charpente et projette des trompes de neige contre la fenêtre. La tempête secoue la maison comme pour tester sa solidité. Un support cède et une section de gouttière se détache et vient taper contre le pignon. « Quel vent !» murmure Bernard. « Ouais, c'est fou. » « Je m'inquiète un peu pour Hugo. Il a dit qu'il rentrerait aujourd'hui. »« Espérons qu'il ne sorte pas par ce temps, » répond-elle en consultant son téléphone. « Le réseau est toujours coupé. Même les numéros d'urgence restent inaccessibles. » Une partie de la gouttière se décroche et glisse sur le toit. « Je vais allumer un feu dans le poêle pour garder la chaleur dans la chambre, » dit Bernard. « Et il faudra sans doute revoir le dîner si le courant ne revient pas. » Quelques tuiles vont se briser sur la pelouse gelée. « On peut faire griller des saucisses ?» propose-t-elle. « Bonne idée. Je descends préparer une salade de pommes de terre. » Bernard s'éclaire à l'aide de son téléphone pour redescendre. Le vent hurle dans la maison et les vitres vibrent dangereusement. La flamme vacille et le regard d'Agnetta est attiré par un éclat argenté dans le buffet de Hervé, comme une petite auréole flottante. Intriguée, elle se lève, saisit son téléphone et éclaire l'étagère. Tout au fond, elle aperçoit une petite boucle de fer noircie, coincée entre le bord de l'étagère et le fond du meuble. Elle essaie de la tirer vers le haut, mais la boucle résiste. En la faisant glisser sur le côté, elle entend un déclic et une partie de l'étagère se soulève légèrement. Agnetta tire sur la boucle et une trappe dissimulée s'ouvre sur une petite alcôve d'où s'échappe une odeur de vieux bois. Elle contient une chemise cartonnée noire, maintenue fermée par un élastique décoré d'une petite fleur de lys argentée. Agnetta hésite à appeler Bernard. Une pensée la traverse. Et si cette chemise contenait d'autres lettres de la mère de Hugo? Des lettres que Bernard préfère cacher. Elle emporte la chemise, s'assied au bureau et défait l'élastique. Au sommet, elle trouve un relevé de notes de Bernard de troisième, un diplôme de natation et une photo de classe du CP. Agnetta l'observe à la lumière de la bougie. Le petit Bernard porte un pull à col roulé rayé marron et noir. C'est un garçon maigre, avec un pansement sur l'arête du nez et les cheveux ébouriffés. Sans conscience de l'objectif, il rit en regardant un autre garçon plus grand, qui fait une grimace en poussant sa lèvre inférieure avec la langue. Agnetta feuillette des documents sur des placements en famille d'accueil, des diplômes de foot, des lettres de recommandation après des jobs d'été, des bulletins du lycée, puis elle tombe sur une vieille photo couleur au coin usé, marquée d'un pli en diagonale. Lorsqu'elle l'examine, elle est parcourue d'un frisson. On y voit une femme blonde d'une trentaine d'années, en jean et débardeur sale, qui se tient devant un atelier de mécanique, le regard fixe et le visage crispé. Ses bras sont fins mais musclés, elle porte de gros gants de travail et tient une lourde clé à molette. Sur le bâtiment délabré derrière elle, une flèche rouge au néon indique « Service ». Ford Tractor. Au dos de la photo, quelqu'un a écrit à l'encre bleue « Ma pauvre maman ». La photo suivante est celle d'un mariage. C'est la même femme, souriante cette fois, en robe blanche, à côté d'un homme plus grand, moustachu, vêtu d'un frac trop étroit. Agnetta retient son souffle en découvrant la photo suivante. Bernard, âgé d'environ 10 ans, se tient sur une plage de galets sous un ciel blanc, vêtu seulement d'un maillot de bain et de palmes noires. Il grelotte et remonte ses épaules. Sur son torse maigre, on distingue une cicatrice en forme de flèche, boursouflée et rose. Elle part de la base du cou et descend jusqu'au nombril. C'est cette cicatrice qu'elle a sentie, dissimulée sous les poils de sa poitrine. Des pas résonnent dans l'escalier. Les mains tremblantes, Agnetta rassemble précipitamment les documents et aperçoit une série d'autoportraits dessinés par un enfant. Un garçon qui pleure, un garçon tenant un ballon noir, un garçon avec un chien en colère. Tous portent sur leur corps des flèches pointant vers le bas. Un garçon dans un cercueil, un garçon sur une voie ferrée, puis des pages entières couvertes uniquement de flèches rouges, des centaines, une pluie ininterrompue de flèches. Elle referme la chemise, la replace dans la cachette, referme la trappe et entend le petit déclic du mécanisme. Elle se rassied, le cœur battant à tout rompre. La flamme de la bougie frémit dans les courants d'air. Bernard entre dans le bureau, apportant avec lui une odeur de feu de bois. « J'ai cru que tu t'étais endormi, » dit-il. « Non, je... » Elle s'interrompt, paniquée. Toutes les victimes portaient des flèches inachevées gravées sur le torse. Exactement comme Bernard enfant, comme aujourd'hui encore, sous les poils de son torse. « Hé !» sourit-il. « Tu as réussi à allumer un feu dans le poil ?» demande-t-elle, sentant la sueur dégouliner dans son dos. « Bien sûr, » répond-il. « Parfait. Tu es bizarre. « Ah bon ?» dit-elle la gorge serrée. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je sais pas, rien. »« C'est cette tempête apocalyptique. »« Peut-être. » Agnetta tente désespérément de trouver une explication rationnelle à ce qu'elle vient de voir. Était-il une victime précoce ? Appartenait-il à une secte étrange dans son enfance ? Mais aussi effrayant et impensable que ce soit, il n'y a qu'une seule explication. Bernard est impliqué dans les meurtres. Elle n'a même pas besoin de remonter le fil des événements pour savoir qu'elle ne peut lui fournir d'alibi pour aucun des crimes. La nuit où une victime a été massacrée au camping, elle avait pris un somnifère et dormait profondément. Au moment du meurtre au club de tennis, Bernard était censé être en ville avec son éditrice tchèque. Elle refuse d'y croire. C'est inconcevable. Pourquoi aurait-il voulu écrire un livre avec elle? Pourquoi aurait-il aidé la police? Pour accéder à toutes les informations et garder une longueur d'avance, se dit-elle. Tu penses que Hugo acceptera encore l'hypnose? Demande Bernard en agitant les mains comme un magicien. Non, il... La flamme vacille. leurs ombres dansent sur les murs. Agnetta remarque soudain que l'élastique à la fleur de lys est resté sur le bureau. « Tu ne crois pas ?»«
Je sais pas, » répond-elle en détournant les yeux.
« Il a beaucoup d'angoisse pendant et après. Mais il veut aider la police et toi pour le livre. »
« Je devrais peut-être lui parler, » dit Bernard d'une voix étrangement douce.
« Oui, peut-être. » Son cœur bat à tout rompre tandis qu'elle prend son carnet, note quelque chose et le pose sur l'élastique.
« Simplement lui dire que ça suffit, qu'il n'a aucune obligation, » poursuit Bernard. « Il a déjà fait plus que ce qu'on peut attendre de lui. »
Agnetta est en alerte. Elle remarque la petite contraction sous l'œil de Bernard, se rend compte qu'elle se comporte bizarrement et s'efforce de poursuivre la conversation comme si de rien n'était.
« Oui, c'est vrai, »
répond-elle en luttant pour garder une voix neutre. « Mais il est une pièce maîtresse de l'enquête, qu'il le veuille ou non. »
« C'est sûr que, pour nous, pour le livre, ce serait formidable si son témoignage permettait d'arrêter le tueur. »
« Mais tout ira bien quand même, » souffle-t-elle. Elle croise son regard sans savoir s'il a vu l'élastique avant qu'elle ne le cache sous le carnet.
« L'idéal serait qu'on trouve le meurtrier avant la police, » dit-il.
« Je pense qu'on doit juste les aider du mieux qu'on peut. »«
Tu en penses quoi ? Qui est notre meurtrier ?»«
Je sais pas. » »«
Mais si tu suis ton intuition, » insiste-t-il en soulevant légèrement son carnet.
« Je sais pas. Pour l'instant, » répond-elle, persuadée qu'il joue avec elle, qu'elle doit absolument quitter la pièce.
« J'ai l'impression que tu es sur le point d'assembler le puzzle, » dit-il en la fixant.
« Il nous manque encore trop de pièces pour que ce soit possible, » tente-t-elle en se forçant à sourire.
« Qui sait ? » réplique-t-il en reposant le carnet.
Même si elle ne parvient pas encore à relier tous les éléments, Agnetta sait désormais que Bernard est impliqué dans ces atrocités. Peut-être même a-t-il agi seul. Peut-être est-il l'auteur de tous ces assassinats à la hache, ces décapitations, ces mutilations, ces flèches gravées. Il a tué des hommes, des femmes, des témoins et des policiers.
« On descend ?» propose-t-il en jetant un regard vide vers le buffet de Yavze.
« Oui, allons-y, » répond-elle en se levant.
Elle croise son regard, perçoit comme un bourdonnement derrière ses yeux, comme des guêpes affolées dans une ruche.
Il lui sourit et annonce qu'il va ouvrir une bouteille de vin.
Elle comprend qu'il n'hésiterait pas à la tuer s'il savait ce qu'elle vient de découvrir.